I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alors, avant de démarrer l'épisode, j'ai un petit message à vous faire passer et qui va particulièrement intéresser tous ceux qui se sentent souvent fatigués, épuisés et qui aimeraient retrouver toute leur énergie. Vous connaissez Jack, il était mon invité sur l'épisode 182 et vous aviez adoré l'épisode que j'avais fait avec lui. 90 000 vues sur YouTube, des dizaines de milliers d'écoutes sur Spotify, des chiffres hallucinants pour un épisode technique. Eh bien, figurez-vous que Jack, il a longtemps lutté contre la fatigue chronique, contre les coups de mou, contre cette sensation d'être constamment épuisé dans sa journée. Eh bien, devinez quoi, il a réussi à transformer sa vie en appliquant les bonnes méthodes et des techniques simples et efficaces. Et il a créé une formation qui est révolutionnaire et qui s'appelle 30 jours énergie. Elle permet de retrouver sa vitalité et sa motivation en seulement 30 jours. Et j'ai eu l'occasion de découvrir et de suivre ce programme de formation en intégralité. Et je dois dire qu'il est assez impressionnant et extrêmement qualitatif. On y retrouve des techniques pour améliorer son alimentation, pour améliorer son sommeil, pour gérer son énergie. Et franchement, il y a des astuces auxquelles on n'aurait pas pensé. Certaines qui sont vraiment novatrices et je les ai découvertes au fur et à mesure de la formation. Et en plus, Jack, il explique super bien, il est passionné par son sujet et il transmet ça à merveille. Et aujourd'hui, eh ben, je vous propose, vous aussi, de découvrir le programme 30 jours énergie. On en a longuement parlé avec Jack et on a décidé de vous faire un super cadeau. Alors, vous connaissez mon talent pour la négoce et en tant qu'auditeur du podcast, Jack a accepté de vous offrir une réduction de 100 euros sur le prix de la formation. Et pour en profiter, c'est très simple. Vous allez dans la description de n'importe quel épisode, vous cliquez sur le dernier lien qui correspond normalement à la lettre, mais vous serez redirigé vers la formation. Et vous pouvez aussi retrouver la page en tapant directement dans votre barre de recherche biomecaniquepodcast.com/énergie. Cette offre, elle est valable uniquement cette semaine, alors ne la manquez pas. C'est une opportunité en or pour dire adieu à la fatigue et retrouver une énergie constante. Par exemple, vous allez notamment apprendre comment modifier vos repas pour booster votre énergie, comment avoir un sommeil plus réparateur, quelles sont les méthodes les plus efficaces aujourd'hui pour gérer son énergie au quotidien, quels sont les meilleurs compléments à prendre. Bref, c'est rempli de conseils pratiques, de routines simples et d'astuces qui sont efficaces pour que vous puissiez vous sentir au top de votre forme. Et en plus, Jack, il est tellement confiant dans l'efficacité de sa méthode qu'il vous offre une garantie. Si vous ne voyez pas d'amélioration dans votre énergie dans les 30 jours, vous serez remboursé intégralement. Vous avez donc absolument rien à perdre. Donc, je répète une dernière fois, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode ou alors vous tapez biomecaniquepodcast.com/énergie dans votre barre de recherche et vous aurez la réduction de 100 euros sur la formation. La promo se termine dimanche prochain, le 26 mai, traînez pas et maintenant, place à l'épisode.
De la réalité indiscutable du terrain depuis toujours, c'est que les gens, en fait, on ferait mieux de les coacher à s'entraîner, à optimiser leur entraînement avec une chambre à air ou un élastique ou au poids du corps, que de fantasmer sur des techniques d'entraînement qu'on peut utiliser finalement que la moitié du temps, moins les récupérations, moins les phases d'affûtage. Au final, c'est l'inverse. C'est 20% où on est en train de faire du travail ultra technologique et ultra outillé, et le reste du temps où on bricole.
Bonjour, bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer vos entraînements sportifs, éviter toute blessure et qui vous permet de découvrir les secrets des sportifs et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, de performance, de thérapie, de nutrition et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des super invités qui m'accompagnent pour chacun des épisodes. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal au Canada. J'accueille aujourd'hui Aurélien Broussal-Derval, qui est préparateur physique de renom d'ailleurs, qui est un des plus respectés en France, et probablement l'un des plus sympathiques puisqu'il a accepté mon invitation à passer dans le podcast et à être passé au crible de mes questions et de mes interrogations. Il a préparé de nombreux athlètes et professionnels à des compétitions, comme les Jeux Olympiques, et dans des sports très différents. Il a donc une très grande expérience du terrain. Il tient une chaîne YouTube, qui est suivie par de nombreuses personnes. Il anime un podcast, il a écrit de nombreux livres de référence, comme la méthode cross-training ou l'art du mouvement, dans lequel nous reviendrons dans l'épisode. Je lui ai demandé au cours du podcast pour quelles raisons il a voulu devenir préparateur physique, quel a été son cheminement. Et il nous expliquera quelle est sa vision et son approche de la préparation physique d'un athlète. On a discuté de l'impact du digital, du numérique, dans tout ce qui est transmission d'informations dans le milieu du sport et de la préparation physique, comment certaines avancées technologiques et toutes les machines modernes d'entraînement peuvent parfois être inadaptées dans notre monde actuel chez certains athlètes. On a beaucoup discuté de souplesse, de mobilité. Évidemment, je lui ai demandé son avis sur la question des étirements. Est-ce qu'il faut s'étirer après une séance de sport, en dehors des séances d'entraînement ? Comment tester et travailler sa mobilité. Pour ceux qui sont intéressés de recevoir mes emails privés, inscrivez-vous à la lettre biomécanique. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode sur la première ligne. Vous recevrez une fois par mois la lettre biomécanique qui contient mes meilleurs conseils pour améliorer votre santé, diminuer vos blessures et avoir de meilleurs résultats dans votre activité sportive. Et en plus de recevoir chaque nouvel épisode du podcast tout fraîchement sorti directement dans vos mails. Tout ça, c'est sur biomecaniquepodcast.com/lettre. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Aurélien. Et on se retrouve juste après. Donc je vais te poser ma question habituelle de début de podcast. Et je ne sais pas si tu as déjà parlé dans ton contenu. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu t'es entraîné ? La première fois que tu as fait un entraînement, que ce soit musculation, cardio, haltéro ?
La première fois que j'ai fait un entraînement de type préparation physique, quoi.
Ouais.
Extérieur à ma... C'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que tu sais, moi je viens des sports de combat. Et en sport de combat, la préparation physique, elle est un petit peu intégrée. Enfin, justement, elle n'était pas forcément intégrée, mais elle était. Pour moi, intégrée, c'est de la préparation physique, tu vois, qui utilise la discipline cible comme support.
Ok, tu as commencé par le judo, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça, judo, et puis très vite, jiu-jitsu brésilien. Et mais bon, différents arts martiaux, j'ai vraiment des sports de combat, j'ai même pratiqué des sports plus traditionnalistes, je suis premier dan de kendo aussi, donc j'ai pratiqué un petit peu tout, et en fait, effectivement, il y a beaucoup de prépa, de PPG, tu vois, historiquement dans ces sports-là, quoi. Donc on a toujours eu, si tu veux, des circuits training, des circuits de renforcement, etc.
D'accord, donc c'est pas quelque chose que t'as découvert à un moment donné, t'as pas eu une révélation en découvrant la préparation physique? Déjà dans tes débuts de sportif, on va dire que c'était déjà intégré dans les entraînements, dans les planifications d'entraînement, quoi.
Ouais, il y avait la culture physique, si tu veux, à l'époque. Il y avait la musculation, il y avait le bodybuilding, il y avait la force athlétique. Il y avait déjà l'haltéro, c'était un petit peu moins courant, tu vois. C'était ouais. Pas.
Et justement, toi, est-ce que t'as eu un attrait particulier pour la musculation, pour l'entraînement en salle? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaisait, ou alors tu le faisais, ou tu t'y es intéressé un petit peu malgré toi pour t'améliorer dans tes sports de base qui étaient les arts martiaux?
Ouais, moi j'ai un père qui était prof de culture physique et puis qui avait une salle de sport, donc j'ai été un peu bercé dedans et puis, j'étais plongé dans la force athlétique, la musculation, même un petit peu le culturisme d'une certaine manière. Et du coup effectivement, ça a été assez fluide, assez instantané. Par contre, je le faisais de manière, effectivement, comme tu l'as décrit, un peu utilitaire, quoi. C'est pas que j'aimais pas ça. Ça me passionnait pas outre mesure. Si moi j'aimais me battre, j'aimais, je faisais beaucoup de sports de glisse aussi, tu vois, j'aimais bien rider, j'aimais bien faire des choses comme ça. Puis c'est avec l'âge, tu vois, tu shiftes un petit peu tes centres d'intérêt, et, tu te blesses un peu, tu vois, tu fais deux trois trucs qui sont un peu à la limite, et puis du coup tu cherches un autre sens à ta pratique, tu vois, un sens plus de performance et de santé, quoi. Et donc, c'est là que ces enseignements-là, ces contenus de musculation et tout ça ont pris plus de sens.
Et comparativement à cette découverte, cette pratique que tu as fait toi-même, est-ce que tu te souviens je sais que c'est peut-être un peu difficile de répondre à cette question parce que généralement, ça reste vague et puis il n'y a pas peut-être de première fois vraiment très identifiable, mais on va dire ton premier souvenir de lorsque tu as préparé un athlète dans un sport, lorsque tu étais toi-même préparateur physique et que tu as...
Ça je peux te répondre. C'était assez tôt, c'était en deuxième année de licence. Enfin, aujourd'hui on parle de licence, tu sais, mais à l'époque c'était un DUG, j'étais en deuxième année de DUG. Et je me rappelle très bien, effectivement, puisque j'avais préparé deux combattants de jiu-jitsu brésilien, dont un ancien judoka qui s'appelle Luc Farando. Je me rappelle très très bien du premier plan d'entraînement que j'ai monté sur quelqu'un d'autre que sur moi. Et Sébastien Bassard aussi, deux mecs assez solides en plus, donc c'était intéressant.
Et puis très très vite, ça s'est enchaîné après, parce que du coup, dès la L3, j'étais plongé en équipe de France, j'étais à l'INSEP avec des stages déjà très très engagés, à très haut niveau. J'ai été plongé dans le grand bain très très vite. Et la CS Peugeot Mulhouse, qui était un de mes tout premiers clubs de judo de haut niveau, où il y avait déjà des grandes championnes de judo, c'était un club féminin. Donc j'ai très très vite après été plongé dans la prépa physique au niveau. J'ai pas eu trop de cases, j'ai pas eu trop de transitions, si tu veux.
Et j'avais fait un épisode sur la préparation physique, sur le coaching, on va dire, avec Julien Volant il y a quelques mois maintenant. Comment ?
Ouais, je me rappelle, j'avais écouté pas en entier parce qu'il était très long, je me rappelle. Ouais, c'était un gros épisode et j'ai écouté la première partie, je me rappelle.
C'est ça, c'était un épisode, un des plus longs à l'époque sur le podcast. Il y en a un autre qui n'est pas encore sorti au moment où on enregistre celui-ci en ce moment, mais qui va sortir et qui a explosé encore plus les records, qui est passé au-delà de 2 heures. Ouais. Je t'invite à découvrir lorsqu'il sera sorti. Enfin, il sera sorti au moment où celui qu'on enregistre maintenant sera sorti. C'est avec Jérôme Quadrado où on parle de tous les troubles psychologiques en lien avec le sport. On a parlé de bigorexie, on a parlé de dysmorphie musculaire, on a parlé de tout ce qui entoure en fait la pratique d'un sport, la musculation, etc. C'est extrêmement intéressant. Ouais, pour revenir sur le podcast avec Julien, on avait parlé de tout ce qui était préparation physique. Moi, j'avais beaucoup de questions à lui poser parce que j'étais très novice. C'était quelque chose que j'avais du mal à on va dire catégoriser entre l'entraîneur, le coach, le préparateur. Ma vision, c'est bien affinée depuis, donc grâce à Julien, grâce à des recherches que j'ai fait derrière. Et toi, t'es quand même considéré comme un des préparateurs physiques les plus connus, les plus performants,
les plus sympas
populaires.
Déjà. Les plus sympas déjà pour commencer.
Les plus sympas, les plus extraordinaires, j'irais jusqu'à dire.
C'est gentil.
Et d'ailleurs, moi, j'ai découvert ton site ABD Podcast après ton podcast. J'avais d'abord découvert, je connaissais un petit peu ton nom dans le milieu grâce à Rudy, grâce à Superphysique. Ensuite, j'avais découvert ton podcast. Ensuite, j'ai été un petit peu sur ton site. J'ai lu les articles. J'invite les sportifs, les gens qui sont intéressés par l'amélioration de leur sport, de leur performance, même la compréhension de ce qu'ils font. Il y a énormément d'articles sur ton site ABD Podcast. Quelle est l'adresse de ton site?
Ouais, c'est ça. Le nom des podcasts, c'est ABD Podcast.
Ouais.
Et le site web, c'est broussal-derval.com.
Voilà, c'est ça. J'invite, je laisserai tout ça dans les liens, hein, pour les gens qui sont intéressés, mais j'invite les gens à aller y faire un tour parce que j'ai trouvé que les articles étaient vraiment de très bonne qualité. Et donc, pour en venir sur ton statut de préparateur physique super sympa et super populaire, j'aimerais avoir ton avis sur comment tu vois la préparation physique pour toi. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi exactement?
La préparation physique, c'est tout à la fois quelque chose d'extrêmement important, une espèce de tâche de fond, et en même temps, c'est pas indispensable. C'est assez paradoxal parce que j'aime bien comparer ça à de la musique. Tu sais, c'est le préparateur physique, c'est le bassiste dans le groupe de rock. C'est celui qui fait prendre une dimension au groupe hors du commun, qui a scié la musique, si tu veux, d'une certaine manière, qui fait un espèce de lien hors du commun. Mais au final, on peut faire de la très bonne musique sans bassiste. Tu vois, on arrive juste avec un chanteur et une guitare déjà à faire de la bonne pop, tu vois.
Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est une fois que t'enlèves le bassiste, en général, que tu te rends compte qu'il y a un trou dans la musique.
Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que j'aime bien cette image, parce que, en toute objectivité, on peut faire sans, tu vois, mais il manque quelque chose. Et bon, alors après, il y a des gros tubes sans basse, hein, voilà, on y arrive aussi. Il y a tellement de grands champions qui ont tout gagné sans préparation physique ou avec de la pseudo-prépa physique ou en faisant semblant et j'en ai encore, même dans mon écurie, j'ai encore des athlètes qui accordent une importance relative et qui sont tellement forts finalement que ils arrivent à défier les règles de l'entraînement, mais c'est un élément, voilà, c'est une espèce de lien, c'est quelque chose qui fait la connexion entre d'autres choses qui sont peut-être d'une certaine manière plus importantes. Hein. Je pense que si on devait vraiment choisir qu'on mettait des règles absurdes de préparation et qu'on disait ben voilà, pour te préparer, t'as le droit qu'à un seul outil. Soit c'est la nutrition, soit c'est la prépa mentale, soit c'est la prépa physique. Et toi, t'as le droit de continuer à t'entraîner dans ta technique, hein, dans ta préparation technique habituelle. Ben, je prendrais sûrement pas la prépa physique si j'en avais qu'un à prendre, tu vois. Parce que je pense qu'on aurait des effets beaucoup plus rapides avec la nutrition et sur certaines personnes beaucoup plus efficaces avec la prépa mentale. Tu vois, en prépa physique, c'est long, c'est fastidieux, ça prend un volume énorme pour arriver à gagner 3, 4, 5% sur la performance finale sans aucune garantie. Et par contre, c'est 3, 4, 5% qui peuvent changer complètement la donne dans des moments critiques de combat ou sur des sphères de performance de très haut niveau, ou à l'inverse, combler des gaps sur des niveaux inférieurs. C'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment du mal à passer un cap, peut-être qu'effectivement, en transcendant son physique, il va réussir à prendre la confiance et les repères qui lui manquaient jusque-là. Et donc, c'est un peu tout ça, la prépa physique. C'est un liant. Pour moi, la prépa physique, c'est une connexion entre des sphères de performance prioritaires.
Ok. Tu vas, j'imagine, améliorer... L'objectif, ça va être d'améliorer quelques composantes physiques, des caractéristiques précises. Il va y en avoir beaucoup, hein. La vitesse, l'explosivité, la force, etc. En fait, tu vas, j'imagine, un peu les choisir. Tu vas prendre celles qui sont les plus intéressantes pour le sport en question.
Ouais, on est face à une arborescence de qualité, qui sont parfois vraiment tentaculaires, si tu veux, qui vont avoir des répercussions différentes sur les individus, selon leur rôle dans le sport qu'ils pratiquent, selon le sport qu'ils pratiquent évidemment, selon leur profil et leurs préférences aussi. Et donc, la première différence entre un bon et un mauvais préparateur physique, c'est celui qui va arriver à prendre les bonnes décisions au niveau du coaching. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même globalement tous au même niveau d'information et de formation initiale, quoi. Globalement, on arrive tous à maîtriser à peu près les filières énergétiques, à peu près les grandes qualités de force, à peu près les grandes méthodes de développement de la puissance. On arrive globalement à un niveau assez homogène, si tu veux, qui n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. Il y avait des différences telles entre les prépas physiques en termes de ressources techniques que à la fin tu pouvais avoir un poney et un cheval de course, si tu veux. Là, aujourd'hui, on est quand même assez harmonisé dans les filtres. Par contre, avec la mode nord-américaine notamment, on a tendance à standardiser beaucoup les contenus. Et du coup, la vraie finesse du préparateur physique, ça va être d'être capable de détecter les game changers pour son athlète dans son contexte.
Ouais, et donc, ça passe par toujours à l'ultra personnalisation, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon credo. C'est vraiment, depuis toujours, je suis absolument convaincu que la prépa physique est une affaire de spécialistes. De spécialistes de la prépa physique, évidemment. Ça y est, ça, on y arrive, c'est ce que je disais, mais aussi de spécialistes de l'activité et de l'être humain, si tu veux. Et donc, il faut être vraiment armé en outils et en expérience pour arriver à prendre les bonnes décisions pour une bonne personne. Et donc, il n'y a pas vraiment de plan type de prépa physique. Il y a un certain nombre de filtres qu'on va choisir d'appliquer dans différents contextes.
Finalement, c'est ça. La différence entre un bon préparateur physique et un moins bon va se jouer pas tant sur les connaissances de base qui sont apprises pendant les études ou en tout cas ce qu'il existe, mais plus par l'expérience. Finalement, comme peut se faire tous les métiers de la forme ou de la santé, tu vois. Je veux dire. Un métier comme l'ostéopathie, ça marche de la même manière. Un métier comme coach aussi, j'imagine que la grande différence va se jouer sur l'expérience et le fait de pouvoir s'adapter parfaitement à l'athlète ou au patient en question.
Ouais, même plus généralement que le sport, j'irais même jusqu'à tout l'artisanat. Parce que pour moi, on fait un métier d'artisan plus que de scientifique. Tu vois, on est plus près du cuistot que du neurophysicien, tu vois. On est vraiment dans une dimension simple des choses, tu vois. Il y a des règles physiques incontournables, c'est comme en cuisine, tu sais, l'eau elle bout à 100 degrés, c'est comme ça, quoi. Donc après, tu fais cuire à différentes températures, à différents moments, avec différents assaisonnements, etc. Et donc ton cassoulet, tu peux le faire de plein de façons différentes. Mais au fond, si tu veux vraiment que ça cuise, il va pas y avoir trop le choix. Si tu veux, tu vas être quand même un peu cadré, quoi.
Et donc, pour moi, la prépa physique, c'est ça. C'est, on a des règles qui nous encadrent, des trucs à ne pas faire, qu'on connaît maintenant et qui sont communément partagées, relativement admises. Quelques, à la marge, on a quelques débats, tu vois, on en parlait sur les étirements, sur, voilà, il y a quelques zones d'ombre encore à préciser, mais enfin, globalement, ça se joue à pas grand chose, et c'est sans doute pas ça qui va influencer la performance finale. En revanche, la prise de décision sur les grandes orientations et les chemins qui vont mener à la performance pour des individus, ça, on est dans le domaine de l'expertise. C'est là que on peut commencer à jouer, à faire un concours entre nous, savoir qui est le meilleur artisan de France. Et donc c'est ça la beauté du truc, c'est que je pense qu'on est sorti d'une première phase là où on a réussi à faire monter le niveau de notre corporation globale vers quelque chose de très acceptable, très normalisé. Maintenant, il faut arriver à donner les clés et les outils aux gens pour prendre les bonnes décisions.
Ok, juste une question par curiosité. Tu penses que toi, donc là on est sur ça, hein, comme tu viens de le dire. Hein, est-ce que tu penses, toi, à l'avenir, il va y avoir d'autres composantes qui vont faire qu'un préparateur physique va être bon, va se détacher? Là, on a mentionné donc les connaissances de base, on va dire. On a mentionné l'expertise. Est-ce que, je sais pas, la digitalisation, est-ce que le fait de pouvoir diffuser des informations, de pouvoir faire des webinaires comme toi tu les fais par exemple, est-ce que tout ça, ça va conduire à peut-être d'autres caractéristiques que les préparateurs physiques vont devoir développer ou vont devoir creuser pour se détacher? C'est comme si on rentrait dans une nouvelle sphère, tu vois, post-confinement en plus, tout ça.
C'est sûr. Le confinement accélère la prise de conscience d'une forme de réalité dans le sport. Je pense que ça nous touche pas forcément plus que d'autres métiers. En vrai, tout ce qui va pouvoir être digitalisé va l'être désormais. Il faut l'accepter. C'est pas bien ou pas bien, c'est comme ça. En passant, je suis assez fier de la façon dont notre industrie et nos contemporains se sont emparés de l'outil numérique pendant le confinement, si tu veux. Je trouve que parmi les différentes corporations, on est sans doute une de celles qui s'est le plus vite adaptée. C'est assez spectaculaire de voir tous ces gens qui se sont mis à faire du coaching à distance, avec leur téléphone, avec Zoom, en s'emparant des outils de manière extrêmement habile et rapide. Donc j'aimerais féliciter les coachs qui nous écoutent pour ça, c'est spectaculaire. Et puis d'un autre côté, je constate que ce que je raconte depuis 15 ans, si tu veux, est en train de tomber à plat sur la table, alors que c'était déjà là, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu fais de la compète, je parle pas du personal training, hein, je parle vraiment de la compétition, mais finalement vous allez voir que d'une certaine manière, ça s'applique aussi au personal training. Quand on fait de la compétition, il y a une espèce de réalité qui est niée par l'ensemble des staffs et des fédérations et même des sportifs. C'est qu'on passe entre 100 et 140 jours à l'étranger. Quand on est un sportif de haut niveau, en moyenne, hein, dans l'olympisme, en football, c'est peut-être encore plus que ça, tu vois, il faudrait que je compte, mais. Et de fait, tous ces moments de compétition, si tu veux, c'est des moments où on a un staff limité, à part dans le sport pro où tout le monde se déplace globalement, dans les petits sports olympiques ou amateurs, le prep physique il reste à la maison, si tu veux. Et donc, en réalité, la moitié du temps, la moitié, c'est pas un peu, c'est pas 10%, ce qui déjà nous pousserait à nous poser des questions, mais la moitié du temps, les sportifs de haut niveau, leur quotidien, c'est quoi? C'est d'être avec leur entraîneur, dans le meilleur des cas, voire tout seul, à l'autre bout de la planète, dans une chambre d'hôtel, parfois avec des machines guidées, parfois avec un TRX et un élastique s'ils sont éveillés et qu'ils ont pris ça avec eux, et en aucun cas avec de l'excentrique, du contraste de charge, des machines pneumatiques, des accéléromètres. Tu vois où je veux en venir? C'est que la réalité indiscutable du terrain depuis toujours, c'est que les gens, en fait, on ferait mieux de les coacher à s'entraîner, à optimiser leur entraînement avec une chambre à air ou un élastique ou au poids du corps, que de fantasmer sur des techniques d'entraînement qu'on peut utiliser finalement que la moitié du temps, moins les récupérations, moins les phases d'affûtage, moins, au final, c'est l'inverse. C'est 20% où on est en train de faire du travail ultra technologique et ultra outillé, et le reste du temps, où on bricole. Et dans le personal training, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on enlève les vacances au ski, les 4 semaines de coupure l'été, la phase de démotivation, de remotivation, la phase où on a un rush parce que on a des conseils d'administration ou je ne sais quel bouclage, en vrai, concrètement, on ferait mieux de donner les clés à nos athlètes et nos clients pour poursuivre l'acte d'entraînement dans n'importe quelle circonstance, plutôt que de passer notre temps à développer des techniques où on devient indispensable, où la salle devient indispensable, où la machine devient indispensable. On devrait plutôt être les garants d'une continuité de l'entraînement qu'une intensité de l'entraînement.
Et c'est là où il y a le gap entre tout ce qui va être nouvelles recherches, nouvelles technologies, les découvertes sur comment augmenter d'un petit pourcentage ceci, ce caractéristique, cette caractéristique ou cette performance, etc., avec des outils toujours plus compliqués et avec une technologie grandissante. Donc ce gap-là entre ça et la réelle pratique, ou comme tu le dis, où on en viendrait presque dépendant d'une salle, d'un matériel, d'une technologie, et qui est très peu applicable, si ce n'est que dans des conditions extrêmement rares termes de fréquence. Quoi.
Bien sûr. Alors, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre, évidemment. Évidemment, il faut garder cet axe de haute performance, de filling the gap, tu sais, comme disent les Nord-Américains, chercher à combler les écarts par tous les moyens possibles et imaginables. Et ça passe évidemment par de la haute technologie. Aujourd'hui, c'est une évidence. Et néanmoins, ne pas nier, pas faire un acte de déni, tu vois, vraiment ne pas nier la réalité de simplicité à laquelle on est confronté de manière majoritaire dans le sport. Et donc, effectivement, moi j'ai toujours été sensible à toutes les techniques qui allaient permettre de faire mieux avec moins bien, de transcender un outil simple, de faire des choses simples mais belles, propres, qui délivrent. Et c'est pour ça que je me reconnais assez bien dans certains outils comme le TRX, comme la kettlebell, comme le travail calisthénique au poids du corps, comme en restant évidemment directeur technique adjoint de la Fédération française d'haltérophilie. Hein, attention, hein, rien n'est exclusif. Mais à un moment donné, je suis sensible à faire beaucoup avec peu.
Non, mais c'est intéressant.
À tous les niveaux de pratique, on est concerné par ça. C'est une forme de réalisme qui a été nié pendant des années et des années, et qui aujourd'hui, par le confinement, si tu veux, éclate au grand jour. Qu'est-ce qui se passe quand les gens sont enfermés pendant 2 mois? Mais les gars, en fait, les 3/4 des athlètes que je coach en confinement, ils sont dans leur maison de vacances, ils sont retournés chez leurs parents, ils sont retournés là où ils sont habituellement, donc dans toute la France. Donc il y en a qui sont confinés dans 12 mètres carrés, et puis l'immense majorité, ils sont dans des maisons ensoleillées, ils font le sport dans leur jardin. Et donc, dans mon cas à moi, bon, ce confinement-là, finalement, c'est beaucoup rapproché de ce qui se passe en été. Moins les camps d'été de préparation spécifique, olympique, et puis moins les Jeux olympiques. Mais finalement, on n'a pas été très perturbés, nous, si tu veux. On a juste pas eu accès à des salles de musculation, mais bon, c'est rien de très exotique. Et puis, comme mes athlètes sont éduqués, formés, savent s'étirer, se préparer, faire leur routine de mobilité, connaissent les rudiments du matériel qu'ils ont à domicile, bah finalement, bon, on s'entraînait comme des malades, comme d'habitude.
Et c'est marrant, je découvre moi aussi, enfin je redécouvre l'entraînement poids du corps, l'entraînement TRX. J'avais pour habitude, avant que les salles de sport soient fermées, d'aller dans un gym, une salle de sport, une salle de musculation pour faire un entraînement en split classique, parce que j'aime bien ça, ça fait longtemps que je fais de la musculation classique, on va dire. Et quand ça s'est fermé, comme tout bon pratiquant, t'as peur de perdre, t'as peur de grossir, etc. Enfin, toutes les considérations qu'on connaît tous, qu'on a tous connus pendant le confinement, et qui sont toujours encore le cas puisque les salles n'ont pas réouvert. Donc j'ai vraiment redécouvert l'entraînement poids du corps, l'entraînement TRX. J'avais eu le bon flair d'acheter des sangles au Décathlon de Montréal ici avant que ça ferme. TRX, il me semble que c'est la marque, hein, c'est ça, hein.
Ouais, c'est ça, TRX, c'est la marque qui a déposé la première sangle connue, qui a surtout démocratisé une forme de pratique autour de la sangle.
C'est intéressant, on peut faire vraiment plein de choses dessus. Alors il y a peut-être moins de possibilités évidemment que si t'as accès à une salle avec toutes les machines, tous les haltères, avec tous les angles que tu peux travailler. Mais après, tu te rends compte aussi que finalement, la recherche de détails n'a pas tant de d'impact concret quoi sur le physique. Enfin, en tout cas, voilà, travailler la base, travailler le général, ça revient à ça. Hein. C'est intéressant d'aller dans le détail des fois pour aller gagner un peu en performance.
Ouais, ouais, c'est ça, quand on est confronté. En fait, la vraie expertise, elle est là. C'est drôle parce que on reconnaît souvent les imposteurs en préparation physique à la complexité des situations qu'ils mettent en œuvre. Et plus c'est des trucs, plus c'est le cirque et le jeu, si tu veux, et plus il y a de chances qu'ils soient démunis techniquement, ces gens-là. Et donc, y a plein de gens qui m'aiment pas quand je dis ça, parce que concrètement, ils se sentent un peu visés. Mais n'empêche que, effectivement, c'est plus difficile d'être expert en squat que de faire des morpions avec des cônes en courant à travers un terrain, si tu veux, ou que de mettre les gens sur des rollabola ou des ballons suisses et puis de les laisser se structurer par eux-mêmes, tu vois. Et donc c'est comme dans la haute technologie quoi, évidemment faire un ordinateur tout fin épuré avec un écran magnifique qui plante jamais, avec un OS très simple et très stable. Je pense que tout le monde peut avoir cette idée-là.
Et c'est un peu aussi ce qu'on retrouve dans les coachs de muscu classiques, le fitness, où des fois on voit des mouvements qui sont parfaitement exotiques. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que t'as développé cette relation et cette amitié avec Rudy Coya, qui depuis des années prêche quand même pour des exercices de base, avec des connaissances classiques, des choses qui fonctionnent, et pas partir dans des choses exotiques. Ça rejoint un peu le discours que tu as là et l'approche que tu as l'air de vouloir défendre.
Oui, ce qui n'empêche nullement à un moment donné de s'amuser, nullement à un moment donné de créer de la surprise dans l'entraînement, de la variété, de la richesse. Mais j'aime bien il y a un courant nord-américain qui s'appelle Bigger, Faster, Stronger, BFS, et que tu connais probablement, hein, qui est la méthode. Alors, on imagine nous tout de suite, ça c'est très mal titré parce pour nous Européens, parce que nous on imagine tout de suite que c'est du culturisme à l'extrême ou de la force athlétique de très haut niveau ou quelque chose comme ça. En fait, non, Bigger, Faster, Stronger, c'est le process de développement des jeunes athlètes en préparation physique en Amérique du Nord. C'est-à-dire que presque toutes les universités passent par une case à un moment donné, Bigger, Faster, Stronger. Donc c'est très 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 simple. C'est un parcours de formation du jeune athlète à travers ce qu'ils appellent le Big Five, les cinq mouvements de force athlétique et d'haltérophilie. Et donc il commence le livre, je vous le conseille, il est traduit en français, Bigger, Faster, Stronger. Il commence le livre en disant bah voilà, on va vous parler de ces cinq mouvements, pas parce que ce sont nos préférés ou parce que on pense que il faut à tout prix faire de l'haltéro ou machin, mais parce que ce sont les meilleurs. Parce qu'à un moment donné, ce sont les plus généraux, les plus globaux, les plus transférables, les plus utiles au long cours, et qu'une fois qu'on sait faire ça, avec des vraies charges, on sait où puiser l'adaptation, on sait où neutraliser la force en termes de technique, parce que la force est une qualité technique. Et après, bah effectivement, quand on va monter sur un Swiss ball, on en tirera beaucoup plus d'effets, on sera placé en toute sécurité, et puis on saura où revenir pour chercher vraiment de la force. Et donc je trouve ça extrêmement juste. Il faut s'être entraîné très dur et très fort pour revenir à de la simplicité et à des choses vraiment efficaces à un moment donné.
Ouais, c'est un peu comme la courbe d'apprentissage où petit à petit t'en apprends de plus en plus, tu complexifies tout, et puis au bout d'un moment, je crois que tu retombes sur des choses le plus simple, et tu te rends compte que tu connais pas autant que ce que tu pensais, et puis tu revois en fait la base, et c'est là où tu te rends compte que tu t'étais perdu dans des détails, et que la base, c'est ça qu'il faut vraiment travailler.
C'est ça. C'est un chemin. Les jeunes préparateurs physiques ont du mal à le percevoir, c'est normal. Ça fait partie de l'ordre des choses. Je critique pas les gens qui en sont pas encore là dans leur chemin. Moi-même, j'ai été là. Moi-même, j'étais vers la complexité, vers la richesse, vers la variété, chercher à faire des séances les plus variées possibles, surprendre les gens sans arrêt, leur faire waouh. Et au final, c'est la perf elle est pas là. J'aime bien le là il faut revenir à la la philosophie des arts martiaux pour comprendre ça, c'est que la plus haute ceinture en judo, tu sais ce que c'est?
Bah, comme tout le monde, j'aurais dit la ceinture noire.
Ouais, et en fait, la ceinture noire, quand t'es vraiment dans le judo et dans les arts martiaux, tu sais que c'est le début du chemin, en fait. C'est très, très, les arts martiaux, c'est un peu comme la musique, quoi. Ça demande beaucoup d'engagement et de constance, tu vois. Il faut beaucoup de patience aussi, tu vois. Et en fait, le ceinture noire, c'est là où tout commence, en vrai. Et donc, bon, après, il y a tout un parcours de dan, etc. La ceinture la plus importante, c'est une ceinture blanche. Ceinture blanche plus épaisse, plus large. Et tout ça pour dire que le symbole est fort. Le symbole est fort, c'est que à la fin du chemin, avec tout ce que tu sais, eh ben, tu étais au début, en fait. C'était les bases sont le... J'aime bien aussi l'image d'un des plus grands combattants de MMA, Royce Gracie, tu sais, qui a contribué à lancer l'UFC, qui disait j'ai atteint le niveau que j'ai en combat par un travail acharné des bases. Et je trouve que quand tu le vois combattre, si tu veux, je trouve ça d'une pertinence hors du commun. C'est-à-dire que le mec fait trois trucs, mais il les fait tellement bien, avec un timing tellement précis et une qualité gestuelle tellement précise que bah ça passe à chaque fois.
Et pour en revenir, ouais.
Ah non, voilà, donc c'est un peu cette philosophie que je veux communiquer aujourd'hui, parce que il faut faire de parfois de la complexité et amener de la richesse et de la variété dans l'entraînement, hein, mais pas au détriment d'une précision de tous les instants.
Et justement, si on reste sur cette idée de base, j'aime beaucoup parler de santé à l'intérieur de ce podcast. De manière générale, à chaque épisode, il y a quand même une ligne directrice sur la santé, sur la forme, le bien-être peut-être plus grossièrement. Qu'est-ce que tu préconiserais, toi, comme entraînement pour un objectif qui serait uniquement santé, longévité? Quel serait l'entraînement de base, ou en tout cas les composantes que tu trouverais essentielles à travailler? Est-ce que je pense à quelque chose comme plus le cardio, plus la force, l'explosivité? C'est pour, on va dire, pas nécessairement un athlète de haut niveau, mais on va en sportif lambda, comme je peux l'être ou comme peuvent l'être les auditeurs qui écoutent ici.
Ben, avant tout, j'adresserai le mouvement avant tout. C'est-à-dire que la priorité, ce serait de mieux bouger, en fait. Tu vois, plus que d'être fort, plus que d'être endurant, la première des choses, c'est d'être
mobile.
C'est d'être mobile, c'est d'être un être humain optimisé, c'est-à-dire d'avoir les amplitudes fonctionnelles de base qui nous manquent aujourd'hui, et d'être capable ensuite de les mettre au service d'un mouvement contrôlé, tu vois, le contrôle moteur. Donc, s'il devait y avoir une priorité, ce serait déjà de se servir de son corps de manière variée et équilibrée dans l'espace. Là-dessus, je rajouterais une composante force importante, parce que la force perdure, la vitesse s'étiole, mais la force perdure, et la force peut même se développer assez longtemps, permet d'ancrer les postures, la stabilité, énormément de choses. Donc, la souplesse arriverait avec le package mobilité, si tu veux. Ensuite, il y aura un deuxième pilier qui serait la force. Ensuite, il y aurait un troisième pilier qui serait la respiration. Et par-dessus tout ça, je mettrais effectivement une petite surcouche d'endurance pour maintenir les capacités cardio-respiratoires à un niveau fonctionnel, mais qui n'est pas forcément un niveau hors du commun, hein, tu vois, juste une pointe d'aérobie, si tu veux, dans le système.
Ouais, je comprends. Donc, là, on va dire que ça serait sous forme de pyramide, la base de la pyramide, pour qu'ensuite on puisse ajouter les autres éléments. La base, ça serait donc la mobilité, savoir et pouvoir bouger correctement.
Ouais, c'est ça. Je vois ça même comme un peu comme le présentait Cometti sur les qualités d'endurance dans les années 90. Je vois ça même comme une pyramide inversée, moi, tu vois. Une pyramide inversée où on partirait de la qualité du mouvement pour construire peu à peu, une fois qu'on a cette qualité de base, tu vois, nos patterns de moteur de base, pour construire peu à peu de la quantité de qualité de ces patterns. Donc,
Je sais pas, dans un premier temps, le jeu, ce serait d'être capable, effectivement, de faire des squats et des fentes dans des amplitudes acceptables. Puis dans un deuxième temps, ce serait d'être capable de les répéter au cours de mouvements de plus en plus riches, de plus en plus complexes et de plus en plus longs.
Et comment on pourrait améliorer toute cette composante de mobilité? Est-ce que ça serait tout simplement en faisant tous les mouvements, par exemple les 5 mouvements de Bigger, Faster, Stronger, en essayant d'améliorer l'amplitude à chaque fois? Comment concrètement quelqu'un pourrait améliorer sa mobilité de manière générale?
Bah, il y a plein de chemins. Il y a effectivement les mouvements de force. Hein. On en parle d'ailleurs dans le webinaire sur la souplesse. On sait que développer sa force permet de développer son amplitude articulaire. Donc sa mobilité in fine, en équilibrant de l'amplitude articulaire par des qualités de souplesse et de la stabilité articulaire par des qualités de force. Donc on peut effectivement utiliser les mouvements Bigger, Faster, Stronger ou d'autres. Hein. Je pense au mouvement Kettlebell, je pense au mouvement poids du corps, gymnique, calisthénique, etc. On peut aussi utiliser des disciplines qui sont par essence de la mobilité. On peut évidemment parler du yoga ou de méthodes alternatives comme Pilates, Feldenkrais, je sais pas moi, les mouvements tirés de tous les mouvements de tous les courants de pensée tirés de l'hébertisme, le Zazu ou Ido Portal ou tous ces courants de pratiques là qui sont en fait ni plus ni moins que de l'hébertisme réinventé. On peut aussi chercher du côté des arts martiaux, hein, du côté du jiu-jitsu brésilien, la gymnastica naturale, du côté de la capoeira, du côté des arts plus traditionnels japonais. Plein de chemins pour développer la mobilité d'un pratiquant.
Est-ce que les étirements sont également pour toi un excellent moyen d'améliorer sa mobilité? Et ça va du coup peut-être amener à discuter un peu des étirements rapidement. C'est que je t'en ai parlé en off. C'est un sujet que je trouve aussi très controversé à débat. On entend de tout. Est-ce que tu penses que déjà dans un premier temps, les étirements, c'est un bon moyen d'améliorer sa mobilité, de travailler dessus?
Les étirements, c'est une des composantes de la mobilité pour moi. Pour moi, la mobilité, c'est la souplesse active contrôlée. Et donc je mets la souplesse très devant, effectivement. Souvent, les gens qui sont pas mobiles, c'est par un déficit. En tout cas, dans les sociétés occidentales, c'est par un déficit de souplesse, souvent, par notre pratique à nous. Peut-être que dans d'autres pays du monde, c'est pas le cas. Et ça peut arriver que ce soit purement des déficits de force, parce que quelqu'un qui n'est pas capable de se mettre accroupi parce qu'il manque de dorsiflexion de cheville contrôlée, souvent, effectivement, c'est de la raideur des mollets, souvent. Mais ça peut aussi être une faiblesse des muscles tibio-antérieurs. Donc, adresser exclusivement la souplesse pour développer la mobilité, c'est oublier qu'il y a une composante force dans la mobilité qui est pas négligeable. Et puis ensuite, ça peut être simplement parce que il n'y a pas les commandes motrices à jour, le logiciel à jour pour se mettre accroupi. Parce que, on est tellement conditionné et tellement limité à la position assise que, on a oublié depuis tout petit comment on se mettait naturellement accroupi. Et donc, il faut le réapprendre. Il faut le recoacher. Il faut réamener les sportifs à s'y mettre. Des fois, on se rend compte qu'en fait, ils n'avaient ni déficit de force, ni déficit de souplesse. Ils étaient juste maladroits, tout simplement. Donc, pour moi, il y a ces trois phases indissociables, et j'en parle plus dans le webinaire, du coup, de la mobilité que de la souplesse. Il y a travailler sur les tissus mous, les préparer à de la souplesse, et ensuite reprogrammer ça dans de la coordination motrice. Et le tout avec un renforcement musculaire de tous les instants, pour être certain qu'on déshabille pas Paul pour habiller Jean, parce que il faut pas oublier qu'effectivement c'est une équation à trois inconnues.
Et quid du manque de en ce qui concerne la conformation articulaire, je vais prendre un exemple concret, le squat par exemple. Sans nécessairement parler des différentes longueurs de segments osseux qui font que certains vont avoir plus de facilité ou plus de difficulté à réaliser un squat, mais par exemple des personnes qui vont avoir une articulation de la hanche qui va être relativement fermée, va avoir du mal à à écarter le genou sur un squat et donc à avoir une amplitude qui va pouvoir être, comme on peut dire, complète. Et dans ce cas-là, j'imagine que c'est quelque chose qui va se révéler une fois qu'on a fait un travail d'agilité, d'étirement, de proprioception, de comme tu en as parlé, de système nerveux, enfin ce qui fait qu'on va pouvoir se baisser en fait, tu vois. Une fois qu'on a travaillé tous ces domaines, on va se dire ben c'est toujours pas possible. Tiens, il y a peut-être un problème de conformation osseuse et c'est ça qui empêche. Toi, est-ce que tu l'as remarqué peut-être dans des athlètes ou des sportifs que tu as déjà entraîné tout ça? Cette composante d'architecture articulaire.
Ouais, bien sûr. On est des fois confronté à des ancrages qui transcendent un petit peu tout ça. Alors après, il est quand même rare de pas trouver la réponse à l'équation. C'est-à-dire que si on est méthodique, si on part d'un mouvement global, qu'on observe exactement toutes les adaptations, et donc pour chacune d'adaptation, qu'on a un outil vraiment qui nous permet de nous rappeler qui est raide, qui est faible, qui est allumé, qui est trop allumé, qui est éteint carrément, on arrive à mapper un peu le corps déjà, tu vois, sur un squat, sur une fente, on arrive déjà à prendre extrêmement beaucoup d'informations en très peu de temps. Bon, une fois qu'on a fait ça, du coup, on va adresser chaque étage, chaque groupe musculaire, chaque étage articulaire. Et du coup, on va les tester en force, en souplesse et dans une situation challenging au niveau moteur. Et du coup, à partir de là, peu à peu, on arrive quand même à détecter qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Donc, c'est un vrai jeu de piste qu'il faut prendre le temps de mettre en place pour être sûr que on ne tombe pas dans un espèce de travail de gribouillage global, tu vois. Ouais. C'est un peu le reproche que je fais au système FMS, si tu veux, que je trouve très très pertinent pour sensibiliser les gens à la mobilité et à la détection et à la prévention, mais qui d'un autre côté, une fois qu'on a détecté et qu'on a noté, on n'a rien détecté du tout d'ailleurs, on note de 0 à 3, puis bon, on dit, bah voilà, si tu as une mauvaise note, tu fais ce programme-là, et en gros, là, on tire au bazooka sur tout ce qu'on doit potentiellement étirer, tout ce qu'on doit potentiellement renforcer, le tout avec un peu de contrôle moteur, et puis normalement, ça règle le problème. Alors c'est vrai que normalement, globalement, ça règle le problème, puisque quand même, l'immense majorité des gens étant exposés aux mêmes facteurs de dérèglement du mouvement, l'immense majorité sont sensibles aux mêmes facteurs de reprogrammation. Mais individuellement, on va avoir beaucoup de variations et peut-être que pour 20 ou 30% des personnes, il va falloir, et c'est énorme, il va falloir savoir exactement ce qui se passe pour faire exactement ce qu'il faut faire.
Et si on reste dans un objectif d'amélioration de la souplesse concernant les étirements, j'ai vu là récemment sur une de tes, t'as fait une petite vidéo sur les réseaux où tu parlais des étirements, enfin tu t'évoquais quelques idées et ça permettait aussi de présenter ton webinaire sur les étirements que tu as fait d'ailleurs que j'ai pas regardé mais que je compte me procurer pour aller y jeter un œil. Donc tu parlais surtout que les étirements on entend de tout, il faut pas, il faut là, il faut pas là, etc. Et tu revenais sur un principe de base et qu'il est effectivement très important de se demander, c'est à savoir quel est l'objectif, parce que c'est sûr qu'en fait, en fonction de l'objectif et de pourquoi on va étirer, on va le faire forcément différemment en termes de temps, en termes de fréquence, en termes etc. Mais si on reste uniquement sur un objectif souplesse, amélioration de la souplesse de manière générale, est-ce que toi, tu conseilles les étirements? Enfin oui, tu conseilles, mais tu les conseilles à distance, sur des plages horaires, prendre le temps de s'étirer, faire des bonnes plages horaires entre des séances, ou alors plutôt avant, plutôt après? Je sais que... On va pas en discuter en détail.
Ouais, non, je vais te répondre. Je les recommande, ouais, bien sûr, puisque ça reste le moyen de performance en amplitude articulaire le plus avéré. Hein. On a beau se raconter que les automassages ont également un impact sur la mobilité articulaire. Oui, enfin, en partant d'où pour aller où, hein, il faut bien regarder. Hein. On fera pas d'un sprinter. Un danseur étoile avec des rouleaux de massage, hein. Il va falloir tirer dessus un moment donné. Il faut être très très clair là-dessus. On a beau se dire ça, du coup, bon, bah ça, oui, moyennement.
On a beau considérer que la force permet de gagner en souplesse. Oui, bien sûr que ça permet de gagner en souplesse. Tout dépend des mouvements de force que l'on fait et à quelle amplitude on les pratique d'une part. Puis encore une fois, on va être dépendant d'une charge à un moment donné pour exprimer notre mobilité. Donc, c'est pas forcément la panacée non plus. Donc à un moment donné, on va être obligé de passer par des étirements. Et ces étirements, ils vont être intenses. Ces étirements, ils vont être difficiles. Ils vont être, ça va être une vraie séance. Au même titre qu'une séance d'endurance HIIT, ou au même titre qu'une séance de force max, il va falloir s'exposer, sortir de sa zone de confort pour aller chercher des programmes. Et donc, à ce moment-là, il faut la programmer en dehors des séances, à distance des autres séances, avec une considération à part entière, une préparation à part entière, un isolement pour éviter des zones d'interférence, appelons ça comme ça, puisque quand on a créé un stress très intense au niveau musculaire, on risque d'avoir des interférences, non pas métaboliques centrales, mais purement locales, au niveau de la fragilité musculo-tendineuse. Donc, il va falloir l'éloigner de séances pliométriques.
Okay, on est vraiment comme sur un entraînement. C'est-à-dire que l'étirement en lui-même va être une séance d'entraînement à laquelle il va falloir prendre des jours de repos pour récupérer, quoi.
Absolument.
C'est intéressant, ouais. Et en termes de durée, par exemple, sur une séance... classique d'étirement comme ça, on est sur du 15 minutes, 30 minutes, qu'est-ce que toi tu penses qu'il est le mieux?
Ah, on est sur des vraies séances qui durent bien longtemps, hein. On est sur des séances qui durent plus de 30 minutes, qui en général peuvent prendre 45 minutes à une heure, où on va travailler de manière globale puis analytique pour couvrir, pour mapper tout le corps et passer le temps qu'il faudra passer sur les zones les plus récalcitrantes.
Et ça, pour ceux qui sont un petit peu découragés, qui entendent ça et qui étaient plutôt, on va dire, ils étaient d'accord, presque, enfin, convaincus de travailler les étirements, de se dire bon, ben ça serait intéressant, ouais, j'écoutais Aurélien, j'aimerais faire des étirements, mais bon, à un moment donné, j'ai entendu une heure d'étirement, ça me fait peur, et j'ai plus trop envie de le faire, ça demande trop de sacrifices, en fait,
c'est dur.
Et ouais, c'est extrêmement dur. Est-ce que peut-être comme réussite ou comme carotte ou comme récompense, voilà, ouais. C'est ça que je cherchais. Est-ce que comme récompense, on peut dire que au bout de très peu de séances, il va y avoir déjà une différence énorme? Est-ce qu'on peut déjà, on peut promettre ça pour encourager les gens à peut-être tester des séances aussi longues?
On peut effectivement leur promettre ça, même si ce sera probablement un mensonge, parce que on va progresser vite, c'est sûr qu'on va progresser vite. Mais pour arriver loin, pour arriver vraiment où les gens espèrent arriver en général, en souplesse, et vu d'où ils partent en général, il faut être honnête, ça va prendre des mois, ça va se compter en saison. Il faut être clair. Et pour atteindre la phase plastique non réversible, là aussi, ou peu réversible, là aussi, ça va se compter en saison. Ok, donc c'est pas comme la proprioception, comme l'équilibre en général où on va progresser très vite, ou même la force où on va avoir des gains très très rapides. La souplesse, quand on est vraiment raide, ça demande de l'engagement, ça demande de la constance. Bon, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est des progrès vont être mesurables, tangibles, palpables très rapidement. C'est vrai, on va progresser très très vite. Mais pour arriver au point où on a envie d'arriver, lancez-vous dans quelque chose qui va durer une saison. Voilà. Et en même temps, c'est toujours pareil. Souple jusqu'à où? Souple jusqu'à quel point? Pourquoi on veut devenir souple? Jusqu'à... voilà, quelles sont les priorités que l'on établit?
Oui, et puis ça aussi, c'est personnalisé. J'imagine, il y a des gens qui vont... déjà, on n'a pas tous la même souplesse ou la même raideur de base.
On est pas tous égaux devant
la vie. Une part de génétique, une part d'expérience, etc. Ouais. Donc ça dépend aussi de chacun.
Voilà, concrètement, c'est la même chose avec la force, c'est la même chose avec l'endurance. À quel moment on passe la ligne verte au-delà de laquelle, finalement, les gains de performance ne vont pas ou plus... influencer la performance spécifique. Jusqu'à partir de quel point, à l'inverse, est-ce que mon manque d'endurance impacte ma performance spécifique? C'est ça la ligne, en fait. Si j'arrive à un point où elle me permet de passer devant tout le monde, bon, bah très bien. Si au-delà de ce point-là, je passe pas
plus loin devant tout le monde, alors ça sert à rien que je passe plus de temps à entraîner cette qualité. Il faut être extrêmement rationnel là-dessus, extrêmement pragmatique. Si ai-je besoin dans ma discipline cible de progresser en grand, d'être champion de grand écart? Est-ce que j'ai besoin de faire un grand écart entre deux chaises? Probablement pas. Est-ce que en revanche, il est acceptable que je dépasse pas 65 degrés d'écart de hanche? C'est un problème de santé presque. Donc voilà, il faut aussi remettre un peu l'église au milieu du village. Et pour toutes les qualités de force, de vitesse, de puissance, d'endurance et de souplesse, il faut se dire, ok, jusqu'où est-ce que je cherche à aller?
À quel point je vais aller? Je vais m'infliger ou alors sacrifier certaines choses pour quel type de bénéfice?
Bah oui, ne serait-ce que du temps. Le temps que je passe à m'étirer, je le passe pas à courir en endurance, je le passe pas à progresser en force. Donc quel moment c'est si important que ça? Il faut le mesurer, il faut faire un modèle de performance pour chaque athlète, pour chaque discipline et prendre les décisions en conséquence.
Et comme toujours, on voit que c'est simple en apparence. Enfin, c'est simple en apparence comme ça. C'est plutôt, je pense que c'est facile à comprendre. Ça, il faut. Mais à partir de quand ça va avoir un réel bénéfice? Et puis, comme tu l'as exprimé jusqu'à présent, et en même temps, c'est d'une complexité en pratique à savoir jauger, à savoir trouver.
C'est là qu'on rentre dans l'expertise. C'est là qu'on rentre dans le travail, dans les devoirs à la maison, quoi. C'est là que le préparateur physique, il doit prendre son chrono, tous ses outils de mesure, son short et son t-shirt pour aller essayer lui-même et savoir de quoi il parle, prendre le temps de modéliser les choses, de les coucher sur le papier. Et c'est là qu'il va trouver les indices. C'est là qu'il va trouver. C'est pas sous la douche, dans le coin de sa tête, ou que dans un livre, hein. C'est un mélange de tout ça. Il va falloir à un moment donné travailler.
Et toi, dans une optique d'accélération de la récupération après un entraînement physique, si je pense à quelque chose de très simple, un entraînement de musculation classique, dans un objectif de récupération, est-ce que pour toi ça fait sens d'aller faire une petite séance d'étirement très léger? En fin de séance d'entraînement, se prendre 10-15 minutes pour faire quelques petits étirements pour peut-être désenrédir le muscle. Est-ce que ça a du sens?
D'un point de vue scientifique, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que la plupart des études aujourd'hui, malheureusement, disent que c'est pas si impactant que ça. Les marqueurs sont pas bouleversés par ce type d'attitude. Et puis, un petit peu pour la force, pareil, j'en parle plus en détail si vous voulez les détails des travaux là-dessus. Regardez le webinaire, mais globalement, c'est pas la révolution qu'on a vendue pendant des années. Il fallait à tout prix s'entraîner, on faisait la guerre à se tirer, c'est la guerre aux athlètes qui le faisaient pas, etc. Finalement, l'impact est très très minime. Et d'un autre côté, est-ce que c'est néfaste? Non, clairement pas. Est-ce que, enfin, si on cherche pas à gagner en souplesse, hein, si on cherche pas à tirer sur un muscle qui est déjà endommagé, quoi. Si c'est simplement des étirements raisonnables de récupération, il y a clairement pas d'impact négatif. En revanche, j'en connais moi des impacts positifs qui sont pas pris en compte par la science. Le cool down et le temps qu'on passe avec son entraîneur et ses coéquipiers à retourner au calme et à échanger, débriefer sur la séance ou doucement passer d'un état très actif à un état de relâchement, faire le bilan de fin de séance, tu sais, le chevalier qui enlève son armure et qui regarde étage par étage les dommages. C'est aussi ça, les étirements, c'est un moment qu'on passe avec soi-même, ça c'est un audit précis. C'est un instant tout autant de l'ordre de la préparation psychologique que de la préparation sociologique.
Le bénéfice certain va surtout se trouver dans les conséquences, les à côté, plutôt que dans l'étirement lui-même pour le physique.
C'est ça. C'est ça. Ce que je recommande, c'est de pas forcément les enlever, mais de savoir exactement pourquoi on les fait, parce que sinon on risque d'être déçu.
Et surtout adapter l'amplitude, surtout comme tu l'as dit, après un entraînement où on a déjà traumatisé des fibres musculaires, on a déjà mis en tension les articulations, les tendons. L'étirement ne va pas être celui qu'on va faire en dehors des séances pour améliorer sa souplesse, quoi. Il faut pas le mettre après la séance, justement. Pour éviter de trop solliciter les muscles. Enfin, déjà que la séance en elle-même, comme on l'a dit juste avant, allait être traumatisante. L'entraînement a été traumatisant. Si on les met les deux ensemble, ça va pas. On est contre-productif, quoi.
Bah, c'est ça. Il faut pas négliger l'impact excentrique qu'ont les étirements. Donc, ça, on endommage les fibres musculaires. C'est une réalité quand on tire fort dessus. Pour mieux les adapter, peut-être, sans doute, mais du coup, il faut le faire sur des fibres qui sont disposées à être endommagées, donc qui ne sont pas déjà pré-endommagées. Et donc, effectivement, c'est un endommage. Exactement. Exactement.
J'avais trouvé intéressant un de tes posts sur tes réseaux sociaux. J'ai fait moi-même le test. Il s'agit du test de mobilité de l'épaule, à savoir on essaye de joindre les deux mains dans le dos, l'une avec le coude vers le haut. Bon, je l'explique très mal. Si les gens veulent voir, je pense qu'ils peuvent aller sur ton Instagram ou sur ton Facebook, ils retrouveront la publication, ce test de mobilité d'épaule. Alors c'est marrant, je l'ai fait moi-même. Je suis d'un côté, j'arrive à avoir l'espace inférieur à une main entre mes deux mains. Mmh. Et de l'autre côté, pas du tout. Bon, de toute façon, ça, personne n'est symétrique. Je suis droitier. En plus, j'ai pratiqué du tennis pendant des années. J'ai un biceps droit qui est plus long d'un point de vue morphologique. Il est plus long que le gauche. Donc, je suis pas inquiet de savoir que j'ai un côté qui est beaucoup plus faible que l'autre. Par contre, je me demandais si moi, je veux améliorer ça. Par exemple, je veux pouvoir gagner cette mobilité d'épaule. Est-ce que donc les étirements, je peux travailler les étirements. Est-ce que je peux aussi faire tout ce qui va être de la mobilisation articulaire pour essayer d'expliquer, c'est essayer de bouger mon articulation dans plusieurs plans, dans plusieurs amplitudes, en essayant d'être pas tant sur l'étirement de muscle, mais plutôt sur le fait d'avoir une amplitude dans tous les paramètres, rotation externe, interne, extension, etc. Est-ce que ça va avoir un impact?
Ouais, bah bien sûr. Bah alors pour cadrer, hein, on parle, je pense, parce que j'en utilise plusieurs, des tests d'épaule évidemment, puisque tu le sais, il y a de la rotation interne, de la sonnette, de l'élévation, plein de choses à évaluer sur une épaule. C'est une articulation complexe.
Oui, bien sûr. Alors quand je dis épaule, ouais, c'est vrai que je parle du complexe en général. On va avoir l'homo thoracique, la gléno-humérale, plusieurs articulations. Mais pour peut-être éviter de perdre tout le monde dans trop d'anatomie, trop de détails, on va dire l'articulation, le complexe de l'épaule, quoi.
Ouais. Alors, mais du coup, c'était pour préciser un tout petit peu le test auquel tu fais référence, puisque du coup, j'identifie bien. C'est le FMS Shoulder Test, qui est donc un test issu de la batterie FMS, si les gens veulent le retrouver. C'est comme ça que dans les FMS, on teste l'épaule. Donc concrètement, on est bras tendu parallèle au sol et on attrape son pouce et on vient essayer de se toucher le dos avec les poings, une main qui passe par le haut, une main qui passe par le bas, le plus loin possible. C'est de rapprocher les deux poings l'un de l'autre si on cherchait à se gratter le dos d'un côté par en haut, d'un côté par en bas. Et donc effectivement, sur ces paramètres-là, il faut être capable de progresser en force de rotation d'un côté et en mobilité, en souplesse de scapula de l'autre, et notamment c'est souvent des deltoïdes qui sont particulièrement peu mobiles sur ce genre de test là. Donc tout ce qui va être exercice d'étirement va évidemment aider, mais effectivement les exercices où on va rajouter un travail, alors souvent on parle de décoaptation, mais c'est pas vraiment de la décoaptation, c'est plutôt un recentrage articulaire ou une décompression articulaire, peut-être si le terme serait plus juste, où on va utiliser par exemple un power band ou un partenaire pour retirer un peu de pression dans la capsule et donc améliorer un peu l'effet de l'étirement, si tu veux. Donc tous ces exercices là, c'est sûr, vont aider fortement à retrouver un petit peu de un meilleur résultat à ce test-là, en tout cas.
Quelque chose que j'avais envie de te demander, qui moi, m'intéresse beaucoup, c'est, on a parlé de mobilité, on a parlé de souplesse, de l'importance de développer ça, de travailler dessus pour s'améliorer, pour être meilleur dans la vie de tous les jours, être moins sujet aux douleurs, etc. On n'a pas parlé de gainage encore, et j'aimerais en venir un petit peu sur le côté stabilité, parce que tu vas me dire si t'es ce que je dis rejoint ton approche, mais quelqu'un de trop souple ou de trop mobile va potentiellement être sujet aux blessures, alors que quelqu'un, alors c'est marrant parce que il va être sujet aux blessures. Et en même temps, quelqu'un de trop raide va être aussi sujet aux blessures. Alors, ça va pas être exactement les mêmes. Et comment on peut juger qu'il faut travailler sa mobilité ou sa stabilité? Est-ce que pour toi, c'est vraiment ces deux concepts qui sont opposés, qui sont complémentaires, qui se rejoignent? Parce que quand on n'est pas assez stable, et quand je parle de stable, je parle de par exemple, on va prendre quelque chose de concret pour que ça soit clair. On va prendre une barre de développé couché. Quelqu'un qui est fort, qui est très raide, même musculaire, articulaire, tendon, il va pouvoir être bien stable, il va pouvoir développer sa barre, il va y avoir moins de mouvements parasites, mais certes, il va avoir plus de chances de se blesser de type déchirure s'il descend trop bas, si en plus il n'a pas la bonne morphologie adaptée. Mais en l'occurrence, quelqu'un qui serait pas assez stable mais trop souple, il va pouvoir effectivement avoir une très bonne amplitude sur le mouvement. Mais est-ce qu'il va pouvoir développer autant de force? Est-ce qu'il ne va pas être sujet à d'autres types de blessures parce qu'il manque de stabilité, il manque de renforcement? Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir.
Non. Bah on a les deux extrêmes. Hein. On a l'hyperlaxe qui ne contrôle rien du tout, et puis on a l'hyperfort qui est incapable de bouger dans des amplitudes variées. Entre les deux, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est la raideur et l'activation. C'est pas parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est pas subir une raideur, c'est être capable de manière active de restituer de l'énergie. Donc, à partir du moment où nos structures musculo-tendineuses, principalement tendineuses, elles sont capables de produire de la raideur à un moment donné, on est bon. Donc, c'est purement du contrôle moteur et nerveux et de l'entraînement dynamique qui nous permet de faire ça.
On pourrait appeler ça de la raideur consciente finalement.
Ouais, on pourrait presque parler de raideur consciente, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est coupler toujours le travail d'amplitude articulaire et de souplesse à de l'activation de force et de la prise de force. Il faut jamais scinder les deux. Si on est que sur de l'étirement passif bête et méchant, bah effectivement, on développe des spaghettis mouillés, pas des ressorts. Et de l'autre côté, le ressort, il est déformable, si tu veux. Il est capable d'absorber énormément de souplesse avant de restituer l'énergie. Donc, développons des ressorts, pas des spaghettis mouillés.
Ouais. Non, la métaphore est bien, elle est très claire. Est-ce que le gainage est un bon moyen, justement, de travailler cette stabilité, cette stabilité contrôlée? Est-ce que c'est le meilleur moyen ou encore une fois, c'est toujours plurifactoriel et il n'y a pas réellement de meilleur moyen plus que tout?
Ouais, c'est vraiment plurifactoriel parce qu'il va falloir, se pencher sur les différents réflexes musculaires, il va falloir se pencher sur la respiration, il va falloir se pencher sur les contractions-relâchements, il va falloir se pencher sur la technique même. Enfin, il va falloir se pencher sur beaucoup de choses pour restituer correctement cette énergie. Et donc, on a deux piliers autour de ces facteurs-là qui sont la force et la souplesse. Et le tout est lié par le contrôle moteur, mais dans des paradigmes tellement variés que ce serait difficile effectivement de les lister ici. Le gainage, comme tu le dis, en fait partie, notamment le gainage dynamique.
Trois petites questions de fin avant de terminer. Je ne vais pas te prendre plus de temps que ça. Déjà, ça a été super top de répondre à mes questions. Je vais innover là pour la première question que je vais te poser. C'est pas celle-là que j'avais d'habitude, mais je la trouve intéressante. Si tu pouvais revenir 10 ans en arrière et que tu pouvais te donner un conseil, lequel tu aurais besoin d'entendre? Très simple.
Ouais, c'est facile. C'est simple et c'est pas simple, mais on me l'a posé il y a pas très longtemps. Oui. Alors, je réponds très facilement. Créer une chaîne YouTube.
Okay.
Parce que clairement, j'ai pas vu venir le truc et l'importance que ça avait de créer ça très tôt et très vite pour créer une communauté de partage efficace. C'est impressionnant ce que ça a pris comme ampleur et donc effectivement. Il y a 10-15 ans, c'est ça qu'il fallait faire.
Ouais, bah je te rejoins aussi sur, là-dessus. Peut-être, j'ai beaucoup moins d'expérience, donc j'ai 10 ans, moi non, mais pour le coup, ouais, c'est vrai que tous ceux qui ont l'occasion de créer du contenu, qu'ils le fassent, qu'ils ne s'en privent pas, on le fait jamais assez tôt. Deuxième petite question, est-ce que toi, tu as eu un modèle ou un mentor, parmi tous les gens que tu as côtoyés, quelqu'un en particulier qui t'a vraiment guidé dans toute ton expérience et tes connaissances?
Non, si j'en ai une qui m'a vraiment guidé plus que les autres, c'est mon père, qui est, comme je disais, un prof particulièrement éveillé de culture physique, très sensible à plein de choses. Mais à part lui, non, j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup, ce qui me permet de pas s'ancrer dans un paradigme et de rester ouvert à plein de visions.
Troisième petite question, est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais recommander aujourd'hui aux auditeurs du podcast?
C'est compliqué parce que là aussi, il y en a beaucoup qui sont passionnants. Si on devait en avoir qu'un, ce serait assez compliqué d'en tirer un plus que les autres. J'aurais tendance à recommander mon livre qui s'appelle L'art du mouvement parce que ça me paraît particulièrement transversal, utile à tout le monde, qu'on soit dans la réathlétisation, la kiné du sport ou la préparation physique ou l'entraînement en général, qu'on soit sur un versant sport santé ou sport performance ou sport loisir. J'ai l'impression qu'il y en a vraiment pour tous. Puis d'un point de vue plus personnel, c'est vraiment mon chef-d'œuvre, si tu veux, c'est le livre qui est le plus abouti de tout ce que j'ai jamais produit. Je pense que je ferai jamais plus que ça. Mais après, il y a un autre livre que je pourrais conseiller qui va sortir très bientôt en langue française, qu'on va appeler, nous, l'encyclopédie de la préparation physique, et qui aujourd'hui s'appelle National Strength and Conditioning Association Essentials, qui est vraiment la bible absolue en toute chose de l'entraînement physique qu'il faut à tout prix avoir, dont j'ai toutes les éditions à la maison. Je suis assez content qu'aujourd'hui il arrive enfin en langue française.
Ok, bon, écoute, on suivra ça de près. L'art du mouvement qui fait écho quand même par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, donc je laisserai le lien en description, je laisserai ton site web également dans les notes de l'épisode. Ton podcast, si les gens veulent te retrouver, tu as un podcast où tu invites des spécialistes.
Un BD podcast où on parle de beaucoup de choses avec des gens qui viennent principalement du haut niveau. On parle de récupération, de performance, de prévention. On parle de psychologie, de nutrition aussi, avec un versant vraiment professionnel. Hein. On parle principalement à des sportifs très éveillés ou à des coachs ou des kinés. Et donc sur un format 20-30 minutes en vidéo sur YouTube ou sur mon site. Sur mon site, c'est un petit peu mieux parce que souvent je mets une vidéo enrichie avec du contenu téléchargeable, des surcouches sur la vidéo qui permettent de jouer, d'interagir avec les contenus, et tout ça est totalement gratuit. Et on les a aussi évidemment en audio partout.
J'encourage tout le monde, les gens qui veulent en apprendre plus, aller développer un peu leurs connaissances, aller voir tes podcasts, aller écouter tes podcasts, aller voir ta chaîne YouTube, parce qu'effectivement, les sujets sont creusés. Régulièrement, c'est des sujets spécifiques quand même qui apportent de la valeur, qui apportent des choses, des connaissances qu'on retrouve pas nécessairement ailleurs, avec justement des spécialistes, des personnes qui sont très 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 connues et en même temps très bon, très bonnes, on va dire. Bon, écoute, je te remercie.
J'ai de la chance d'avoir des invités de marque, c'est vrai, c'est cool.
Et aujourd'hui, j'avais un invité de marque, justement, Aurélien. Et merci d'être passé sur le podcast.
C'est un plaisir de passer ce moment avec toi.
Ouais, je te dis peut-être à bientôt pour un prochain épisode. Et puis,
grand plaisir.
Très bonne fin de semaine à toi.
Salut.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Aurélien jusqu'à la fin. Pensez à le partager à un ami ou à un collègue qui aurait besoin de faire plus d'étirements, qui pourrait être intéressé par notre conversation, comme ça l'a été pour vous, je l'espère. Ça permet aussi de faire découvrir l'émission à ceux qui ne la connaissent pas encore, qui pourraient être intéressés, qui sont dans le milieu du sport, qui sont intéressés par leur santé. Et ça permet d'agrandir aussi l'audience du podcast à mon plus grand bonheur. Si vous souhaitez m'aider un petit peu plus dans ce projet du podcast, dites-moi ce qui vous plaît exactement dans le podcast biomécanique. Pour ça, vous pouvez vous rendre sur l'application podcast d'Apple. Vous pouvez laisser une évaluation de 5 étoiles si vous appréciez l'émission. Et vous me dites pour quelles raisons vous écoutez l'émission, pourquoi ça vous plaît, que vous l'écoutez chaque semaine ou que vous l'écoutez de temps en temps. Je suis très curieux de connaître votre avis. Je remercie tous ceux qui vont prendre le temps, ces quelques minutes, pour me laisser ce commentaire. Ça m'aide à continuer les podcasts, à voir s'il y a de bons retours, de voir que les gens apprécient. C'est toujours agréable. Et ça permet aussi de me booster pour continuer d'enregistrer de super épisodes avec des pointures comme Aurélien aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode du podcast Biomécanique. Bye.